Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme visionnaire. Visionnaire avant l'heure, visionnaire à un moment où on ne comprenait pas encore les concepts. On y va pour les détails. Elle nous explique tout.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zahalaoui, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lalenza?
C'est un honneur de vous rejoindre aujourd'hui de Dubaï.
Alors, depuis quelque temps, vous vivez justement au rythme de la COP, YEC?
Tout à fait, exactement. On en sort à peine.
Exactement, exact. Alors, Zahalaoui, vous êtes une jeune femme qui a finalement entrepris assez tôt le parcours des plus grands, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, mais aussi en faisant de la philanthropie, c'est-à-dire entrepreneur ok, mais servir la communauté aussi, puisque vous êtes la présidente fondatrice de Women Choice.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui a poussé très tôt la jeune femme que vous êtes et que vous avez été à non seulement penser à elle, à sa carrière, à monter un business, mais aussi en parallèle à servir la communauté de femmes?
Tout à fait. Donc en fait, ce que je voulais vraiment communiquer tout le long de mon chemin entrepreneurial, c'est que on peut faire du social au début à partir du début de notre chemin. C'est pas, on a tendance à penser que voilà, pour faire du social, il faut arriver à un certain niveau. Et je prends toujours l'exemple de Bill Gates, d'accord, qui est devenu milliardaire et qui a créé sa fondation. Et qu'en fait, on n'a pas besoin d'être un Bill Gates. On peut vraiment inclure ces valeurs-là au début de notre chaîne entrepreneuriale en incluant du social. Donc ça commence par premièrement reverser un pourcentage des revenus et des bénéfices à une structure de fondation qu'on crée. Deuxièmement, on a une expertise qu'on développe au fur et à mesure, que nos employés ont. Et la question qu'on se pose, c'est comment pouvoir justement faire bénéficier d'autres de cette expertise. Et puis après, c'est une histoire de vouloir et de se concentrer parce que on peut toujours lever des fonds, faire des partenariats avec d'autres entités qui sont beaucoup plus puissantes que nous. Et on parle des sociétés du CAC 40 ou des Fortune 500, grosses multinationales. Et donc voilà. Donc en fait, si on a ce désir et qu'on a un programme, après on peut se connecter à des partenaires qui vont nous aider dans notre vision sociale.
Alors, aujourd'hui, c'est une dimension qui prend de plus en plus de place de par le monde, cette question de l'investissement responsable, et notamment au Maroc, avec une signature très récente en marge de la COP 28. C'est ça, en fait, c'est investir, créer de la valeur, faire du business, c'est-à-dire que faire pour la société, eh bien, on n'a pas besoin d'être forcément au niveau de Bill Gates ou bien une ONG pour le faire. Tout le monde peut le faire. C'est un investissement social qui prend en considération aussi l'environnement, c'est à travers la gouvernance, toutes ces choses-là. Alors, vous avez appris tout ça où ?
Moi, j'ai grandi au Maroc et en ayant fait un cursus francophone. Et puis j'ai eu la chance d'aller tôt aux États-Unis parce que j'étais pas une excellente élève dans le cursus francophone qui peut être aussi très très classique. Et dans mon évolution vers un cursus plus d'Amérique du Nord, j'ai pu justement développer mes aptitudes entrepreneuriales, mais avec un désir toujours de faire du social qui sont des valeurs marocaines que j'ai appris en grandissant au Maroc, parce que au Maroc on a vraiment la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir côtoyer tous les niveaux sociaux dans notre quotidien, ce qui n'est pas le cas en Europe. Par ces valeurs que j'ai eues au Maroc, par mon éducation internationale, c'est comme ça que j'ai pu apprendre que c'est possible de, d'inclure les deux. Et vous avez aussi dit quelque chose d'important, Yasmine, c'est que voilà, justement, il ne faut pas que ce soit la division de ou bien on fait du social ou bien on fait du business.
Business,
et qu'on
ne
puisse pas faire les deux.
Tout à fait.
Et donc, c'est important, justement, dans cette nouvelle génération, qu'on inclut les deux et qu'on comprenne que les deux peuvent aller ensemble.
Absolument, absolument. Mais alors, à l'époque, j'imagine, quand vous avez commencé, même si vous êtes encore très jeune, mais il y a quelques années, lorsque vous avez commencé, oui. les gens faisaient vraiment la distinction. C'est on fait du business, on
Exactement.
Fait du social. Comment vous, à ce moment-là, vous avez réussi à lever des fonds, à créer une fondation, à finalement oui. Faire ce qui est aujourd'hui recommandé? Et notamment oui. pour justement respecter les objectifs de développement durable des Nations oui. Unies. Comment vous avez réussi à faire tout ça au moment où finalement le narratif n'existait pas?
D'accord, bien sûr. Alors je vais vous expliquer, je vais vous parler un peu de mon chemin entrepreneurial. Donc moi j'ai 41 ans, je suis née en 1982 et à l'âge de 24 ans j'ai commencé une première phase entrepreneuriale où je suis rentrée au Maroc après mes études et j'ai développé des franchises américaines que j'ai rentrées au Maroc. Donc, il y avait Steve Madden, la marque de chaussures, Carter's, Oshkosh. C'était le père de mes enfants et moi, entre 24 et 27 ans, on a développé des boutiques à Rabat, Casa et Marrakech. Et en fait, à un certain moment, j'ai eu un déclic que d'autres femmes peuvent avoir à 40 ans ou oui. peut-être même 50 ans, que j'ai eu la chance d'avoir à 27 ans, où je me suis dit, OK, voilà, je suis en train de construire donc un chemin de vie où je suis entrepreneur jeune et que je réussis mon chemin entrepreneurial, mais où sont mes rêves d'enfant? Où sont mes rêves d'enfant, c'était vraiment de faire du social, de travailler pour les Nations Unies plus précisément. Et donc là, j'ai décidé de tout déconstruire pour vraiment essayer d'avoir donc un travail aux Nations Unies. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais deux petites filles à l'époque, donc j'ai eu mes filles, elles ont aujourd'hui 14 et 16 ans. Et donc, j'ai pu travailler en 2011 pour le World Food Programme qui est... En français, le programme alimentaire mondial.
Ok. Mais quand vous dites j'ai dû déconstruire, c'est-à-dire vous aviez commencé à construire une vie et vous avez dit stop, cette vie ne me convient pas.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Donc vous avez arrêté l'entrepreneuriat à ce moment-là.
J'ai arrêté l'entrepreneuriat. J'ai aussi divorcé.
Ok.
Avec le père de mes enfants, dont on est très proches, on est très amis. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'âge de 16 ans. Mmh. On est très alignés par rapport à l'éducation de nos enfants. On est amis. Mais pour moi, c'était vraiment de sortir d'un chemin classique de ce que la société imposait pour dire qu'on a réussi. Donc
oui,
voilà,
oui,
le mari,
oui.
les enfants, le business qui va, pour vraiment alors déconstruire. Et la partie déconstruction est importante parce que je n'ai gardé que mes enfants au centre de ma vie. Et en me disant, OK, je vais tout reconstruire à zéro. Mais je vais construire avec des valeurs différentes et je vais construire avec justement en restant aligné avec mes valeurs.
Mmh.
Donc,
ouais. Alors, pardon, justement, oui. Je comprends maintenant pourquoi vous dites j'ai eu la chance d'avoir ça très tôt et pas à 40 ans, parce
oui.
que c'est vrai que c'est similaire un petit peu à une crise de la quarantaine, comme on l'appelle.
Exactement.
La remise en question de sa vie, etc.
Exactement. Mais voilà, mais pour moi, je voyais qu'en fait, on était aussi à une phase où on voyait beaucoup de crises de la quarantaine qui se passaient devant nous.
Mmh.
Et en fait, il faut avoir aussi la subtilité d'analyser, de se dire, est-ce que je fais ces changements dans ma vie dans 13 ans ou est-ce que je les fais maintenant et je gagne 13 ans?
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un an, j'ai fêté mes 40 ans et avec des objectifs d'être la femme que je suis aujourd'hui, que je m'étais mise donc plus tôt dans ma vie et j'ai eu justement la chance de pouvoir avoir ce déclic et pouvoir construire des choses à l'avance. Mmh. Parce que c'est inévitable. En fait, c'est inévitable. On finit justement par faire cette transition quand on s'éloigne trop de nos valeurs. Ouais. Et on a tendance à aussi être un peu influencé par justement les normes de la société. Et c'est là où on peut se perdre en cours.
Mmh. Absolument. Alors, il y a aussi cet élément que j'aimerais bien qu'on discute. Je sais que c'est très personnel, mais oui. Voilà, ce mariage avec une personne qu'on a connue très, très tôt. 16 ans, c'est très jeune. 24 ans, vous étiez déjà mariée. Vous aviez déjà eu vos les deux filles déjà ou une?
Exactement, les deux.
Les deux à 24 ans déjà, voilà. Et puis finalement, dans tout ça, la chance de se séparer dans de bons termes, parce que ça aussi, c'est très important.
Oui.
C'est-à-dire tout ben, vivre...
Les bons termes, on les crée. On les crée avec beaucoup de compromis. Et c'est vraiment quelque chose que je promeux énormément, parce que si vous voyez sur mes réseaux sociaux, j'ai une famille très unie aujourd'hui avec le père de mes enfants, avec mon mari donc, que j'ai épousé à 40 ans, et avec mes enfants, avec justement ma belle famille. Et donc en fait, c'est jamais facile, mais c'est vraiment un choix qu'on fait avec beaucoup de compromis. Et en fait, j'ai aussi publié un livre qui parle en fait de plusieurs aspects de nos vies. Et l'un des chapitres, c'est « Il faut choisir ses combats ». Donc pour moi, parce qu'en fait, mener plusieurs combats en même temps, ça nous emmène à une perte. Pour moi, le choix de divorcer et de me libérer pour pouvoir me concentrer sur une nouvelle vie que j'allais construire par moi-même avec mes enfants, c'était déjà ça, c'était déjà un combat que j'avais mené. Mais au-delà du divorce, il ne fallait pas que je continue ce combat éternel que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes vont mener avec leurs ex-époux. Et il faut comprendre que voilà, tant que les choses, quand on arrive à un divorce, au-delà de ça, c'est notre ego qui nous fait continuer ce combat.
Absolument.
Et il y a des enfants au milieu de tout ça. Et nous, finalement, avec les années, on finit par dépasser donc le conflit, parce qu'on finit par refaire notre vie, on finit par rebondir d'une façon ou d'une autre, alors qu'on a traumatisé des enfants en cours. Donc j'avais toujours cette conscience de ne pas impacter les enfants, que aussi bien mon choix d'épouser le père de mes enfants, c'est un choix que j'ai fait avant que mes enfants soient nés. Et le choix de quitter aussi, c'était un choix aussi personnel. Donc mes enfants n'avaient pas à être impliqués dans ça ou à payer le prix de mes choix.
Alors justement, avec vous, en fait, c'est beaucoup de out of the box. Pourquoi ? Parce que c'est aussi divorcer deux enfants, mais aussi continuer, se créer, ne pas tomber dans la déprime du divorce, ne pas tomber dans la déprime
Exactement. De
la mère célibataire, mais créer son rêve, démarrer autre chose complètement. Voilà, vous étiez dans l'entrepreneuriat, là vous aviez envie depuis toute petite de travailler pour les Nations Unies, vous l'avez fait avec deux petites en bas âge.
Exactement. C'est là où j'étais dans de l'innovation sociale, dans l'innovation de vie, et c'est ce qui m'a valu mes 2,8 millions sur Instagram aujourd'hui. Parce que je partageais tout cela au fur et à mesure avec de la photographie, mais aussi avec des textes. Quand on poste sur Instagram, on poste une vie, on poste une méthode de vie. Et en fait, voilà, je partageais tout ça et à l'époque, c'était innovant. Et aujourd'hui, je suis heureuse de voir que je ne suis plus dans l'innovation, que ce soit dans mon système entrepreneurial ou dans mon système de famille, parce que justement, les nouvelles générations, et je les vois, même que ce soit dans leur divorce ou dans leur choix de vie en couple, pour moi, le couple doit être un partenariat de vie. On n'est pas en couple parce qu'on doit être marié, on est partenaire et en fait on développe quelque chose ensemble, une famille, des projets et c'est ce que je vois dans la nouvelle génération de couples et dans ceux qui ont dû vivre la crise du divorce parce que si on a été une génération avec, avec qui ont vécu les stigmates de la crise du couple, parce que le couple n'était plus ce qu'il était à la génération de nos parents. Et en même temps, on n'arrivait pas à définir un nouveau modèle de couple. Donc voilà, aujourd'hui, je vois aussi que les gens ont pu dépasser cette histoire de conflit éternel dans le divorce, et que voilà, il y a des couples aussi qui divorcent, de jeunes Marocains qui savent aussi ne pas vivre dans le conflit.
C'est ça. Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question. Comment vous avez fait à un moment où finalement c'était il y avait vraiment cette dichotomie totale entre entrepreneuriat et pas innovation sociale, mais engagement social plutôt. C'était où on fait de l'entrepreneuriat, où on gagne de l'argent, où on aide les autres. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Comment vous avez fait pour engager une communauté autour de vous, lever des fonds, avoir de l'argent, oui, investir pour ces femmes?
Oui, donc en fait, c'est ça. C'est qu'après les Nations Unies, j'ai créé ma première entreprise sociale qui est Meishad, des premières syllabes de mes filles, des prénoms de mes filles, Meisoun et Shadine. Et sans vraiment savoir ce que Meishad allait être. Et c'est vraiment une entreprise sociale qui s'est redéfinie à plusieurs étapes. Mais je savais qu'il y allait y avoir de la créativité, de l'impact social et du business développement, parce que j'étais entrepreneur et je sais aussi voilà, construire un plan pour pouvoir avoir de l'investissement ou du sponsorship. Et donc voilà. Donc quand je crée Meishad au début, ça a été une sorte d'agence de communication qui a soutenu mon premier projet après les Nations Unies, où j'ai décidé d'aller dans le Sahara. Donc, je suis allée au début avec un projet de livre et j'ai fait Maroc saharien, terre d'inspiration. Donc, c'est un livre qui a été publié aux éditions du Cherche Midi, qui a été financé par l'Agence du Sud et qui a été distribué à la FNAC. Et donc voilà. Donc, en fait, je fonctionnais au début projet par projet avant de vraiment définir quelle est ma valeur ajoutée dans ce monde entrepreneurial et quelle est ma valeur ajoutée dans ce monde social. Donc, avoir un projet créatif avec un impact social, parce que c'était du lobbying culturel pour mon pays, pour cette région. Et puis ça m'a permis après de structurer les choses, de créer une fondation. Donc c'est la fondation Meishad qui est restée active depuis 2014 jusqu'au séisme. Et là maintenant, on est concentré sur un village à 70 km de Marrakech qui a été impacté par le séisme. Donc, et puis, j'avais donc l'entreprise qui faisait au départ donc de la communication pour ce fameux projet de livre, mais qui après, on a commencé à prendre des clients externes où j'allais dans des boîtes et je leur disais, voilà, je peux vous faire une stratégie d'impact social avec un aspect communication. Et je parle de boîtes comme Veolia, Orange, qui avaient une présence au Maroc et qui en fait, qui au départ étaient présents avec une sorte de vision un peu ancienne, hein, de on arrive, on est une boîte européenne, donc on a un tapis rouge. Et en fait, je leur expliquais qu'il fallait qu'ils fassent du social, oui, et que je pouvais les accompagner dans cette stratégie-là.
Mais vous le racontez avec tellement de naturel, comme si c'était simple et normal, alors que ça ne l'est pas déjà, l'accès à ces grosses boîtes. Oui. Justement, c'est pas évident. Il y a quelque chose dans les coulisses,
en fait,
j'imagine.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je l'ai toujours fait avec un côté un peu très décomplexé. Si on me ferme la porte, c'est pas grave. Avec le temps, je réussirai à la réouvrir. Et surtout, vraiment ne pas le faire avec de l'ego, dans le sens où si quelqu'un me dit non, c'est qu'ils sont pas prêts.
Oui.
Et j'étais persuadée qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est toute la responsabilité sociale
de l'entreprise.
Exactement, tout à fait. Mais on ne pouvait pas échapper à ça. Et je voyais aussi les problématiques qu'ils commençaient à avoir au niveau des consommateurs, au niveau des partenaires gouvernementaux. Et voilà, les choses commençaient à se bloquer. Et pour moi, la solution, c'était vraiment d'arrêter de fonctionner en capitalisme pur et dur, d'arrêter de vouloir aborder notre continent avec une perspective de colon. Et qu'il fallait commencer à se pencher sur justement les sujets sociaux. Et ils devaient prendre, eux, le leadership parce qu'ils avaient justement une expertise, une longueur d'avance financièrement, économiquement.
Alors, Nzaha Alaoui, on arrive à la fin de notre échange d'aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de points à discuter avec vous en tant que femme d'aujourd'hui. Mais voilà, on a déblayé un petit peu le terrain. La femme que vous êtes aujourd'hui, la quadra que vous êtes aujourd'hui, vous vous attendiez à la rencontrer ?
Mais écoutez, la femme que je suis aujourd'hui n'est ni un hasard ni un accident. Parce que j'ai vraiment travaillé dur avec beaucoup de détermination pour la construire. Elle est donc en fait, je l'ai construite et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de jeunes femmes pour qu'elle se construise. Et en fait, il y a un dicton où on dit qu'il faut arrêter de se chercher, il faut commencer à se construire. Mmh. Et d'ailleurs, mon livre, c'est « Be who you want to be », soit qui tu veux être. Et en fait, parce que c'est la chose la plus difficile à avoir, c'est pas de se construire, c'est de pouvoir définir qui on veut être. Et mon conseil, donc à notre audience qui nous écoute, c'est si on commence à projeter des images de soi qui sont plus influencées par ce que la société veut de nous ou ce que notre voisin qui a acheté la dernière voiture de sport ou à ce qu'un influenceur sur Instagram est, si on construit, si on projette une image de soi qui n'est pas basée sur qui on veut réellement être ou qui on peut être, qui sont basés sur nos valeurs, sur notre potentiel, on va perdre beaucoup d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre que soi. Et on ne peut pas réussir à être quelqu'un d'autre que soi. Donc, il faut un moment d'introspection, de vraiment comprendre quels sont nos atouts, qu'est-ce qui nous anime, et d'essayer de construire un personnage autour de ça, sans rien oublier. Sans faire aucun compromis de ce qui nous anime réellement.
Nzaha Alaoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Yasmine, merci beaucoup. Et encore une fois, c'est un honneur d'être dans votre émission et de pouvoir en faire contribuer votre communauté et votre audience.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.